Bienvenue aux jeunes, aux moins jeunes, bienvenue aux aînés, aux couples, aux célibataires, aux blancs, aux métissés, aux noirs, bienvenue dans ce lieu. Aux amis de passage, aux habitués, bienvenue dans ce lieu, dans cette maison, la maison du Père, la famille de Dieu, où il est bon, doux et agréable d'être ensemble. Alléluia. Pour chanter, pour louer, pour célébrer, pour adorer, pour communier, et aussi, bien sûr, pour être au bénéfice, à l'écoute de la parole de Dieu. Nous avons vu ensemble, dès le premier dimanche de l'année 2018, que nous entamions une nouvelle série de messages, ensemble, qui va durer quelques dimanches, quelques mois. Cette nouvelle série de messages, je crois, va poser une nouvelle pierre de fondation dans nos vies personnelles, mais aussi dans la vie collective, communautaire de cette Église. Et nous avons ensemble, dimanche dernier, fait une prière. Nous avons élevé une prière ensemble, où nous avons dit « Maître, nous te demandons d'inscrire nos noms sur les registres de cette école qui est toujours ouverte à ceux qui ont soif d'apprendre l'art divin de la prière. » Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire, aujourd'hui même, nous disons encore, comme autrefois les disciples, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » On peut le dire ensemble, tu peux le dire pour ta part. « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Enseigne-moi à prier. J'ai encore tellement besoin d'apprendre, de comprendre comment m'adresser à Dieu, au Dieu de l'univers, au Dieu créateur. Comment m'adresser à mon Dieu, qui est aussi ton Père. C'est ce que nous allons étudier encore ce matin ensemble. Mais sans plus tarder, j'aimerais qu'on prenne la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 6. À partir du verset 9, et que nous puissions lire ensemble. J'espère que vous avez votre Bible, quelle que soit la traduction, la version, que vous avez ce livre de vie entre vos mains, le dimanche matin, mais aussi comme il nous a été aussi rappelé ou encouragé pendant la Sainte Cène, c'est tous les jours que nous sommes appelés à avoir ce contact divin avec Dieu. Et le meilleur moyen de découvrir qui il est, ce qu'il désire pour nous, c'est au travers de sa parole. Parce qu'il est le Dieu de la révélation et il veut se révéler à ton cœur. Il veut te parler. Dans la prière, c'est toi qui parles à Dieu, mais c'est aussi Dieu qui te parle. Dans Matthieu chapitre 6, verset 9, nous pouvons lire ensemble « Voici donc comment vous devez prier ». Ça, c'est la réponse de Jésus à la question des disciples. Maître, enseigne-nous à prier. Jésus leur répond, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Nous allons étudier cette prière ensemble et poursuivre ce matin concernant ce premier verset, ou plutôt cette première parole que Jésus a donnée à ses disciples, « Notre Père qui est aux cieux ». Et le titre, bien sûr, de cette série de messages qui est aussi mon vœu, ma prière pour chacun de vous en 2018. C'est pour ça, peut-être à certains, je ne vous ai pas forcément dit « bonne année » ou « bonne santé », ces bonnes banalités qu'on pourrait dire ou qu'on se répète. J'aimerais vous dire quoi mon vœu, ma prière pour 2018 pour vous, c'est que nous puissions nous inscrire à l'école de la prière, que nous puissions comprendre davantage ce que signifie cette prière et qu'elle vous fasse progresser dans votre relation avec Dieu. Nous avons vu les bénéfices de nous inscrire à l'école de la prière et je les redis parce que c'est bon d'entendre et de réentendre certaines choses et aussi pour ceux et celles bien sûr qui n'étaient pas avec nous dimanche dernier. Nous inscrire à l'école de la prière, c'est le premier bénéfice que je vois, c'est de pouvoir renouveler ma passion pour Dieu. Rallumer la flamme dans mon cœur pour Dieu, revitaliser ma vie de prière avec Dieu, découvrir les stratégies de la prière efficace et de la puissance cachée pour amener le ciel sur la terre. Alléluia! Est-ce que vous n'avez pas envie de vivre le ciel sur la terre? Il y a des choses extraordinaires que les anges, que Dieu a préparées et vivent dans les lieux célestes. Et ils ne sont pas égoïstes, ils veulent que les humains les vivent sur la terre. Maintenant, est-ce que nous les désirons? Est-ce que nous les désirons? Les bénéfices de nous inscrire à l'école de la prière, c'est aussi de vivre de nouvelles expériences avec Dieu. Toi et moi, nous avons besoin en 2018 de vivre de nouvelles expériences avec Dieu. Amen. C'est vrai, je crois que l'étincelle est vraiment basse en intensité ce matin. Il n'y a pas encore le feu, comme tu dis, André. Ça va venir, j'ai confiance, ça va venir. Ça va venir. Augmente le chauffage dans la salle. Un autre bénéfice de nous inscrire à l'école de la prière, c'est aussi et surtout de bénéficier de la présence aimante de Dieu tout au long de la journée. Il y avait un homme qui s'appelle Frère Laurent. C'est pas moi. C'est un homme du Moyen-Âge. Et ce frère était un moine, mais il aimait Dieu. Il aimait Dieu et il a laissé une trace dans l'histoire par rapport à ce qu'il avait découvert dans la vie de prière. Parce que lui-même disait que à chaque moment de la journée, tu peux être en communion avec Dieu. Quand tu fais la vaisselle, il disait, tu peux être en communion avec Dieu. Quand tu es dans le silence, dans la présence de Dieu, tu es en communion avec Dieu. Et dans chaque action, chaque activité que tu peux avoir dans la journée, tu peux être en prière avec Dieu. La prière, ce n'est pas seulement un moment où tu commences à parler à Dieu. C'est toute une, à chaque instant de ta vie, de ton existence, de ta journée, tu peux être en communion et en prière avec Dieu. Bénéficier de la présence aimante de Dieu. C'est aussi, je crois, un des bénéfices de nous inscrire à cette école de prière, de former des sentinelles de prière et d'intercession. Et nous voulons ensemble progresser dans cette mission, dans cet appel d'être des sentinelles, des veilleurs, des intercesseurs. Nous avons vu dimanche dernier que Jésus a répondu à la demande de ses disciples en leur donnant un modèle de prière qu'on a appelé la prière du Seigneur ou le Notre Père et qui, je crois, est une colonne vertébrale de toute révélation spirituelle et qu'il y avait un contexte à cette prière et à cette demande éternel d'hier à aujourd'hui. Je vous laisse réécouter le message, le premier message qui est enregistré. Vous pouvez le commander aussi par CD. Je ne vais pas revenir sur le contexte de cette prière que nous trouvons dans l'évangile de Luc, chapitre 9 au chapitre 11. Mais à l'école de la prière, ce que nous avons découvert et compris ensemble la semaine dernière du Notre Père, c'est que le Notre Père n'est pas une prière rituelle qui cherche la reconnaissance, qui est réservée à une catégorie de personnes ou à une église. Mais non, la prière du Notre Père, c'est un apprentissage qui cherche la relation. Un apprentissage qui cherche la relation. Ferme ta porte, prie ton Père qui est dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. La prière du Notre Père n'est pas une vaine répétition, mais c'est une vraie révélation. Et c'est ce que nous voulons découvrir tout au long de cette série de messages. Une vraie révélation. Seigneur, révèle-toi mon cœur. Au travers de cette prière, de ces quelques mots que Jésus a prononcés à ses disciples, parle-moi, éclaire-moi, aide-moi à comprendre là où tu veux m'amener, dans plus de profondeur dans cette relation avec toi. La prière de notre Père n'est pas une affaire de recherche d'intérêt personnel, mais une recherche de réelles intentions pures. Parce que avant et après le Amen du Notre Père, Jésus nous dit d'analyser nos motivations. Que ce soit dans la générosité, dans la prière, dans le jeûne. Pourquoi tu fais ça? Pour qui tu fais ça? Et Jésus, Dieu, sait voir les motivations du cœur. Nous sommes appelés aussi, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs, à avoir cette capacité de discerner les motivations des uns et des autres. Mais c'est tout un apprentissage, ça prend du temps et c'est pas si facile que ça. Mais Dieu, lui, on ne le trompe pas. Il sait discerner nos motivations les plus cachées, les plus secrètes, les plus profondes. Nous avons vu que la prière de notre Père, c'est une prière de proclamation, parce qu'il est notre Père. Notre Père qui est aux cieux, Matthieu 6, 9, comme nous l'avons lu. Et le message du Père est un des messages les plus importants au monde. Le message du Père est un des messages les plus importants au monde. C'est un des messages les plus inconnus de l'Église contemporaine. C'est un des messages les plus illimités dans sa capacité de rachat, de guérison, de réconciliation, de salut. C'est un des messages qui révèle le plus l'intention divine, le cœur de Dieu. C'est un des messages d'une pensée juste qu'il faut implanter dans nos cœurs. Il y a tellement de personnes qui ont des idées erronées sur la personne de Dieu, qui pensent connaître Dieu, qui pensent servir Dieu, qui pensent prier Dieu, mais ils sont à côté du chemin, ils sont à côté de la vraie et authentique relation. C'est un message vital pour le croyant qui désire entrer dans la dimension de l'impossible. Comme nous avons pu l'entendre dans le don, dans la dimension de la multiplication. Où tu te concernes, tu te sens, où tu te considères peu, et pour Dieu, Dieu ne te voit pas de la même façon que toi, tu te vois, ou que d'autres te voient. Notre Dieu est le Dieu de la multiplication. C'est pour ça que nous chantons aussi le Dieu des miracles, le Dieu de l'impossible. Ce qui même peut paraître impossible aux hommes est possible à Dieu. Il est important de nous rappeler les cinq proclamations du croyant envers notre Père céleste. Nous avons vu ensemble la semaine dernière, mais je veux le répéter parce que c'est bon. Comme nous l'avons chanté, c'est bon. Mon Père m'aime d'un amour éternel. J'ai toujours été aimé par mon Père. Il m'aime comme il a aimé son Fils Jésus. Alléluia. Dieu n'est pas seulement le Dieu de Jésus-Christ. Il est le Dieu de chacun d'entre nous. Et il nous l'a dit, il nous l'a prouvé. Mais je ne répéterai pas tous les versets. Mais Dieu a dit, je vous aime. Et Jésus nous l'a aussi déclaré. Jésus, Dieu nous aime comme il m'a aimé. Je vous aime comme mon Père m'a aimé. Deuxième déclaration, deuxième proclamation. Mon Père a donné ce qu'il avait de plus précieux afin que je puisse connaître son amour. Oui, nous le savons, ce verset, nous le connaissons pour la plupart des chrétiens. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour tous ceux qui placent leur confiance en lui, échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Alléluia ! Et nous allons voir ensemble plus profondément ce matin, la vie éternelle commence ici, sur la terre. Pas quand tu seras dans le ciel pour l'éternité, pas quand Jésus sera revenu et qu'il aura peut-être décidé de te prendre avant. La vie éternelle commence dès que tu as accepté Jésus dans ta vie. Troisième déclaration, mon Père désire que je puisse découvrir et ressentir son amour pour moi. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et nous avons vu, et il y aurait tellement à dire ou à partager sur ce sujet, que face à la laideur du monde, tous les jours, c'est un flot de mauvaises nouvelles. Quand ce n'est pas les cataclysmes, les accidents, la corruption, la méchanceté, la guerre. Face à la laideur du monde, au diabolique, j'aimerais vous dire et vous rappeler qu'aujourd'hui, le miracle divin de l'amour du Père dans le cœur de tout être humain est toujours possible par son Saint-Esprit. Dieu est capable de sauver les pires des pécheurs. Enfin, ce qu'on pourrait considérer comme les pires des pécheurs. Quatrième proclamation, mon Père m'aime malgré mes péchés. Il déteste le mal que je lui ai fait, que je lui inflige ou que je fais subir aux autres, mais il m'aime malgré mes fautes et leurs conséquences. Malgré mes blessures et mes souillures, il n'a pas honte d'être appelé mon Père. Alléluia. Dieu est bon. Cinquième proclamation, mon Père céleste a des rêves, des projets pour moi que je peux découvrir par la prière. L'importance de s'inscrire à l'école de la prière, de développer cette relation, cette communion, cette intimité, cette vie de prière, de dialogue avec Dieu. parce que nous pouvons découvrir les projets de Dieu, sa volonté pour nos vies, au travers de cette relation, de ce dialogue, de cette vie de prière. C'est Jérémie qui nous le dit. « Car je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. » Mais écoutez la suite, souvent on s'arrête là. « Alors vous m'invoquerez et vous viendrez m'adresser vos prières et je vous exaucerai. Vous vous tournerez vers moi et vous me trouverez lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. » C'est à cette condition que nous vivrons la première partie de ce verset, de vivre ces projets de paix et non de malheur, d'avoir un avenir assuré, plein d'espérance. Alors comment Dieu est-il devenu notre Père? Ou comment Dieu, pour certains peut-être ce matin, peut devenir ton Père? C'est très simple, à cause de son profond amour pour chacun d'entre nous. Et pour faire de nous, à nouveau, ses enfants. Ça peut paraître tellement simple, mais c'est tellement vrai, tellement profond. Dieu peut devenir ton Père à cause de son profond amour pour chacun d'entre nous. La première fois, nous le sommes devenus à la création, ses enfants, Dieu notre Père, à la création. Mais à cause de la chute, à cause du péché originel, à cause, disons les choses telles qu'elles sont, de la désobéissance du premier homme, d'Adam et de Ève, notre carte d'identité spirituelle a dû être faite. Elle a dû être faite au prix du don, au prix de la crucifixion de Jésus-Christ, qui a payé notre dette pour effacer, pardonner nos péchés par son sang, mais aussi notre nature pécheresse par la croix. Voilà pourquoi Jésus devait mourir sur la croix et verser son sang, pour effacer, pardonner tes péchés, ce que tu as fait, ce que tu as commis, mais aussi pour crucifier ta nature pécheresse. Dieu peut devenir notre Père si nous plaçons toute notre confiance en lui, si nous confessons de notre bouche que Jésus est le Fils de Dieu. Et que nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Jésus est le Fils de Dieu, je suis pécheur. Si tu confesses de ta bouche ces choses, alors Dieu est fidèle et juste pour te pardonner. C'est l'apôtre Jean, un disciple de Jésus, qui va dire, mais à tous ceux, ou à toutes celles, qui l'ont reçu, et là, on parle de la parole de Dieu, on parle de la parole vivante, on parle de Jésus-Christ. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Une autre version dit le droit de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair. Et là, ce n'est pas la question de tes parents, ce n'est pas une question biologique. Ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu, de la volonté de Dieu, qui a voulu que tu deviennes son enfant, son fils, sa fille. Et il n'y a pas d'âge pour ça. Ce n'est pas une question de couleur de peau, ni de compte en banque, ni d'éducation. Absolument pas. C'est à tous ceux et celles qui croient en son nom. Dieu a préparé la voie pour que nous puissions l'appeler Père. Avant de pouvoir l'appeler Père, il nous appelle ses enfants. Alléluia! Avant que tu puisses l'appeler Père, avant que tu aies cette révélation, Dieu t'appelle mon enfant. Par la nouvelle naissance d'eau et d'esprit, nous accédons à la connaissance de Dieu, nous accédons à la vie de Dieu, nous accédons à la vie éternelle. Dès ici-bas. Et notre esprit qui était mort spirituellement, revient à la vie. Et quand nous recevons la vie éternelle, nous recevons l'esprit d'adoption par lequel nous appelons Dieu Abba, Père. Abba, ce n'est pas le groupe de musique. Hein. Ce n'est pas un terme suédois. C'est un terme araméen. C'est-à-dire qu'à une certaine époque, les Juifs qui étaient revenus de captivité ne parlaient plus tellement l'hébreu, mais ils parlaient une autre langue qui s'appelait l'araméen. Et Jésus va utiliser quelquefois ce langage. l'araméen. Et c'est pourquoi il va dire, et trois fois seulement il va associer comme ça, Abba, Père. À Gethsemane, là, lorsqu'il va enseigner, dans un autre moment, il va appeler son Père Abba, Père. Un terme araméen. Dans Galates, il est dit aussi, et parce que vous êtes fils ou fille, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Quand Dieu devient notre Père, il est infiniment meilleur qu'aucun Père terrestre. Quelles que soient les qualités du Père terrestre, tu as pu avoir un bon Père terrestre. Alléluia, merci Seigneur. Mais quelles que soient les qualités que ton Père a pu avoir, notre Dieu, notre Père est infiniment meilleur. Il est un Père qui désire les meilleures choses pour nous, qui nous comprend mieux que quiconque, mieux que ton conjoint. Parfois, on se fixe des attentes trop élevées vis-à-vis des hommes et des femmes. On pense qu'il va être capable de tout comprendre, de tout cerner, de tout discerner, de tout appréhender. Mais ça, c'est Dieu, ça. Ce n'est pas un homme, une femme, ce n'est pas ton conjoint, ce n'est pas ton enfant ou tes parents. Parfois, il y a des gens qui vivent avec ces douleurs, avec ces frustrations, parce que leurs parents ne les ont pas compris, parce que les parents ne les ont pas aimés suffisamment, parce que leurs parents n'ont pas réussi à développer une relation suffisamment importante avec eux. Et je comprends que ça peut faire mal. Mais lorsque tu découvres que Dieu est ton Père, j'aimerais te dire que tu as beaucoup plus de compassion pour tes parents. Et tu comprends qu'ils n'ont peut-être pas tout reçu, parce que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. Et tu peux tout recevoir à la fontaine de la vie, auprès de Dieu ton Père. Il est infiniment meilleur qu'aucun Père terrestre parce qu'il nous comprend, parce qu'il nous reprend. Avec amour, il nous reprend. Parce que, reconnaissons-le, parfois nous sommes quand même des enfants indisciplinés. On a quelques désobéissances dans nos vies. Et là, Dieu, comme un Père aimant, sait nous reprendre. Il sait nous reprendre avec amour, comme Jésus a su le faire avec ses disciples ou avec ses contemporains. C'est un Père qui nous encourage. Relisez les promesses. Vous allez voir combien Dieu est un Père qui nous encourage. C'est un Père qui met son espoir en nous, qui nous pardonne nos nombreuses erreurs, qui nous console dans nos difficultés. Alléluia ! Il devient ce Père-là et bien plus encore, un Père d'amour, un Père de justice, un Père de lumière, un Père de puissance, un Père de providence. Et selon les propos de Jésus, dans Matthieu chapitre 7, versets 9 et 11, qui s'affiche également, « Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent ?» Qui c'est qui fait ça, là ? En tant que père ou mère, qui c'est qui a déjà fait ça ? Ton enfant qui te demande un morceau de pain et tu vas lui donner une pierre. Ton enfant qui te demande un poisson et tu lui donnes un serpent. Bon, peut-être au Vietnam, chez le pays d'où est originaire notre ami Anthony, peut-être on donne un poisson ou on met un poisson dans la soupe, peut-être. Un nouvel an, voilà. Mais si donc, Jésus continue et il dit, si donc méchant, ça, quand il dit méchant, c'est qu'il faut comprendre, c'est par rapport à ta nature charnelle, à ta nature pécheresse. C'est dans ce sens qu'il faut lire bien souvent le mot « méchant » dans la parole de Dieu. Si donc méchant comme vous l'êtes, de par votre nature, vous savez quand même donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ? Alléluia ! Dieu est prêt à nous donner plein de bonnes choses si on les lui demande, dans sa volonté. Quand Dieu devient notre Père, j'aimerais vous partager ce matin deux choses. Premièrement, Dieu nous libère de l'inquiétude et de la peur. Dieu nous libère de l'inquiétude et de la peur. Des ennemis, de nombreux ennemis, peuvent paralyser un homme, une femme, voire détruire sa vie. Et nous avons trois ennemis en commun, toi et moi, nous avons trois ennemis en commun qui sont identifiés dans la Bible. Premièrement, c'est notre nature humaine, c'est nous. Le premier ennemi de toi, c'est toi. C'est qui tu es. Ta nature humaine. Parce que la Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il est capable de nous tromper. Le deuxième ennemi que nous avons, c'est le monde. Le monde avec ses convoitises, avec ses tentations, avec son orgueil. Et le troisième ennemi que nous avons, c'est Satan, le prince du mensonge, le prince des ténèbres. Celui qui va savoir utiliser les deux premiers, ta nature charnelle, ta chair et le monde, utiliser les failles qu'il y a dans ta vie pour venir te faire ce qu'on appelle la guerre psychologique. Il va venir te titiller là-dedans et te mettre la confusion comme c'est pas possible. Essayer de te mettre un chaos, un désordre par le mensonge. Te faire croire des choses qui sont invraisemblables. Et il sème comme ça l'inquiétude et la peur dans le cœur des hommes. La première phase que tu peux rencontrer, découvrir, que nous avons sans doute déjà expérimenté les uns les autres, c'est qu'il rompt la tranquillité d'esprit. Tu étais bien, paisible, puis d'un seul coup, tu perds une certaine tranquillité dans ton esprit. Et tu commences à penser, commences à cogiter, et tu commences à avoir des pensées négatives. Et les pensées négatives commencent à s'exprimer par ton comportement verbal ou même le non-verbal. Et tu commences à voir les choses d'une façon négative, puisque tes pensées sont négatives. Sur ta vie, mais pas seulement sur ta vie, sur les autres, sur ceux qui t'entourent, sur ton avenir, enfin sur un tas de sujets, de domaines. Et ces pensées négatives qui s'expriment après, si tu te laisses dominer, ou elles vont se laisser dominer par un résultat négatif, et l'échec prend le dessus. L'inquiétude se transforme en peur, puis ça entre dans une autre phase qu'on appelle la terreur. Tu vas passer de l'inquiétude à la peur, et l'étape suivante, c'est la terreur. L'inquiétude, j'aimerais te dire, nous enlève notre joie et nous enlève même notre santé. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Regardez avec moi. Proverbe 18, 14. Quand quelqu'un est malade, son courage le soutient, mais s'il est découragé, qui va le mettre debout ? Dit autrement, quand ton cœur est dans la paix, nous avons du courage et la maladie peut guérir. Mais si le cœur tombe malade, et là on ne parle pas seulement de l'organe physique, la pompe qui t'alimente en sang, mais ton cœur, ton âme, qui est rongée, qui est attaquée, qui est inquiète, qui vit dans la peur, si ton cœur est malade, alors je dirais, il n'y a pas beaucoup de remèdes et les problèmes s'aggravent. Quand ces émotions destructrices ont-elles commencé, pasteur ? Si Dieu est si bon, pourquoi ces émotions sont-elles en nous ? Quand Adam et Ève ont désobéi. Dans le jardin d'Éden, Genèse chapitre 3, versets 9 et 10, Dieu interpelle Adam et Ève et l'Éternel à Dieu appela l'homme et lui demanda « Mais où es-tu, Adam ?» Il était dans la présence de Dieu. Ils avaient été créés tous les deux pour être constamment dans la présence de Dieu. Au bénéfice de la présence de Dieu, de l'amour de Dieu. Mais ils ont fait un choix, ils ont fait une décision de vouloir leur vie indépendamment de Dieu, avec leur propre volonté. Alors Dieu les cherche à nouveau et leur dit « Mais où êtes-vous ? Où es-tu, Adam ?» Celui-ci répondit « Je t'ai entendu dans le jardin et j'ai eu peur. » Première fois que vous allez trouver la peur dans la Bible. Et j'ai eu peur. Car je suis nu, alors je me suis caché. L'inquiétude et la peur, j'aimerais vous dire, ne sont pas des émotions de Dieu. L'inquiétude et la peur ne sont pas des émotions que Dieu a mis en nous. Mais à cause du péché, à cause de Satan, par le péché, ces émotions sont venues en nous. Adam et Ève ont tourné le dos au Père Céleste. Et ceux qui tournent le dos encore aujourd'hui à Dieu tremblent aussi d'une peur qui provient d'un sentiment que rien n'a de sens. Les gens se posent des questions existentielles. D'où je viens ? Quel est le sens de ma vie sur la terre ? Et après la mort, qu'est-ce qu'il y a ? Où je vais ? Je ne sais pas pour vous, moi je me suis posé ces questions-là. À l'âge de 17 ans, je me suis posé ces questions. Jusque-là, tout semblait aller bien, j'avais ce qu'il fallait dans ma vie, et je ne me posais pas ce genre de questions, mais à un moment, Dieu dit qu'il a mis la pensée de l'éternité dans le cœur de l'homme. À un moment ou à un autre, tu te poses ces questions. Jeune, moins jeune, lors d'un deuil peut-être, lorsque tu vas dans un service d'inhumation, tu entends parler de la mort, tu entends parler de Dieu, et là tu te poses des questions. Et est-ce que notre vie, ça se résume à un moment à partir comme ça dans un trou? Ou est-ce qu'il y a autre chose? On se pose des questions existentielles. Et on peut avoir ce sentiment que rien n'a de sens. D'autres sont fatigués par la routine quotidienne du travail, par une vie familiale désillusionnée, par la perte du goût de vivre. C'est pour ça qu'il y a autant de déprimés dans notre société. Les gens ont perdu le goût de vivre pour différentes raisons. Certains se débattent avec un cœur vide. D'autres ont peut-être couru de toute leur force pendant des années avec l'idée qu'ils seraient heureux s'ils atteignaient une position, s'ils acquéraient un peu plus de pouvoir, s'ils avaient un honneur ou peut-être de la richesse. Ceux et celles qui tournent le dos à Dieu tremblent de cette peur provenant du sentiment que rien n'a de sens. Mais il y a aussi, pour ces gens qui tournent le dos à Dieu, au Père Céleste, une appréhension de la mort. Parce que tout homme naît avec la mort pour destin. Toi et moi, nous sommes destinés à mourir. Mais si tu n'es pas préparé à affronter la mort, alors il peut y avoir une angoisse dans ton âme. Il peut y avoir véritablement la terreur qui s'empare de toi. Je ne sais pas si vous connaissez la vie d'un grand philosophe français qui s'appelle Voltaire. Cet homme qui est très connu et qui a vécu à l'époque qu'on appelle le siècle des Lumières. Parce qu'à un moment, il y a des gars, on va dire ça, des gars, essentiellement des hommes, qui ont, en réaction à ce que l'Église de l'époque apportait, se sont dit « la raison prime sur la foi ». La primauté de la raison, de l'intellect, sur la foi. Ils se sont dit, l'homme est capable. L'homme peut penser grand. L'homme peut penser loin. Et donc, ça a été tout ce siècle des Lumières. Et Voltaire, qui a été un des porte-parole, une des figures emblématiques de ce siècle des Lumières, et qui a combattu Dieu et l'Église. Alors, il a combattu l'Église de l'époque, peut-être avait-il raison sur certains aspects, mais il a surtout combattu Dieu, parce qu'il se définissait comme un athée. Il est dit, et nous avons des écrits là-dessus, concernant son médecin qui le suivait, qui lui était croyant, et l'infirmière également qui l'a suivi dans ses derniers jours, dans ses dernières heures, alors qu'il était sur Paris pour une dernière pièce, et que sa pièce faisait un certain succès avec ses collègues, et il disait à un moment, « Oh, cette pièce, vous allez me faire mourir de rire avec cette pièce. » Seulement peu de temps après, il a eu une attaque. Et il s'est retrouvé cloué chez lui, au lit. Et là, même ses amis sont venus le voir et il a commencé à avoir une angoisse, une rage, disent même le docteur et ceux qui l'ont accompagné. Et il en voulait même à ses amis. Et il dit, c'est à cause de vous si je suis devenu comme ça. Et il n'avait plus d'amis, il s'est retrouvé seul dans sa chambre, juste avec son médecin. Et son médecin, il lui a dit, si vous pouviez m'accorder encore 6 mois à vivre. Et son médecin lui dit, vous n'avez plus que 6 semaines, monsieur. Et là, il l'a viré. Il dit, toi et moi, on ira en enfer. Il est dit de Voltaire qu'il a terminé dans une agonie, une terreur, que même le médecin et l'infirmière a dit, j'espère ne plus jamais accompagner un athée de cette façon. Il avait des cris d'angoisse par rapport à l'éternité. Lui qui avait combattu Dieu, lui qui avait tourné le dos à Dieu. Ceux et celles qui tournent le dos à Dieu tremble d'une peur qui provient d'un sentiment que la vie n'a pas de sens, mais aussi une appréhension de la mort, mais aussi une inquiétude de l'avenir. Beaucoup de gens autour de nous qui ont tourné le dos à Dieu pour l'instant ont une inquiétude de l'avenir. Qu'est-ce qu'il va m'arriver ? Face à l'insécurité, face au terrorisme. Et vous comprenez que le mot terrorisme vient du mot terreur. Face au terrorisme qui est là pour semer la terreur, la peur dans le cœur des gens. C'est leur but. Face peut-être à ta retraite. Qu'est-ce que je vais toucher à la retraite ? Mon pouvoir d'achat. Ma retraite, elle diminue encore de quelques euros. Qu'est-ce que me réserve l'avenir ? Mince, je ne vais plus pouvoir aller en voyage en République dominicaine. Il y a beaucoup de pubs actuellement là-dessus. Donc, j'ai aucune action là-dessus, mais... Quand je vois quelques images, ça me donne un petit peu envie d'y aller aussi, mais... L'inquiétude de l'avenir. Comment pouvons-nous être libérés de ces inquiétudes, de cette peur ? J'aimerais te dire, quand Dieu devient notre Père, quand Dieu devient ton Père, nous sommes libérés. Nous sommes libérés des chaînes de l'appréhension, parce que nous connaissons une paix intérieure. Nous sommes libérés de la crainte d'une conscience coupable, ainsi que de la condamnation, parce que par la foi et la confiance que nous mettons dans l'œuvre de la croix, nous sommes libérés de cette conscience coupable qui vient ou qui viendrait encore t'accuser. Nous sommes libérés du sentiment de vide, parce que le but de la vie nous apparaît clairement. Nous vivons pour plaire à Dieu. Nous vivons pour donner gloire à Dieu. Nous sommes libérés de la peur de la mort, parce que oui, notre corps doit mourir, mais notre esprit va au royaume de notre Père céleste. Écoute ce que Jésus a dit, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Moi, je m'inquiète pas de savoir dans quelle petite boîte ou dans quel sarcophage ou dans quel trou en cimetière je vais aller. J'ai une place là-haut. J'ai une place. Jésus m'a préparé une place. Je n'ai pas peur de mourir. Chaque chrétien né de nouveau n'a pas peur de la mort parce qu'il sait où il va. Et comme nous l'avons chanté, Dieu est bon parce que nous nous reposons sur les promesses de la parole de Dieu. La première bénédiction que Jésus nous accorde quand nous prions « Notre Père qui est aux cieux », c'est la délivrance de l'inquiétude et de la peur. Alléluia. La deuxième chose pour terminer, quand Dieu devient notre Père, alors Dieu nous libère et nous fait triompher de tout sentiment d'infériorité ou de frustration profondément enraciné dans notre cœur. Je répète cela parce que c'est important. Plusieurs doivent le saisir, le comprendre, le réaliser aujourd'hui. Quand Dieu devient notre Père, il nous libère et nous fait triompher de tout sentiment d'infériorité ou de frustration profondément, j'insiste, profondément enraciné dans notre cœur. La vie est une lutte, reconnaissons-le. Depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte, la vie est une lutte. Et encore plus difficile la vie quand nous entrons dans cette influence ou ce mode de pensée qu'on appelle la compétition ou la comparaison. Beaucoup d'hommes et de femmes autour de nous aujourd'hui, parce que c'est un courant de pensée qui est dans notre société, se compare et donc compétitionne, si je peux dire, lutte avec les autres. Et c'est comme ça que nous avons des sentiments de survalorisation ou de dévalorisation. Ça peut se passer parfois dans la famille, regarde entre tes enfants parfois. Moi j'ai 3 ados à la maison, je sais ce que c'est. Des filles, des gars et des filles particulièrement. Le sentiment de comparaison est assez fort à un certain âge. Je suis comme ci, je suis comme ça. Mais moi je suis comme ci et comme ça. Ouais. Bon. Après, elle se pardonne, elle s'excuse, elle... on fait les arbitres. On leur explique. Parce que tout nous conditionne, les études, comparaison, compétition. Le travail, compétition, comparaison. L'Église ne doit pas être touchée par ce type de choses et d'attitudes. Nous ne sommes pas ici en train de nous comparer ou d'être en compétition les uns avec les autres. Parce que Dieu, notre Père, nous sommes libérés de cela. Si tu as encore ça dans ta vie, ah, là, tu peux te poser peut-être des questions. Et nous devons de toute façon quand même faire attention parce que ça peut vite nous regagner. Les pensées, le langage, le comportement reflètent nos sentiments d'infériorité. Combien parfois nous entendons dans la bouche d'enfants, d'ados, de jeunes, d'hommes, de femmes, je me trouve nul, je ne m'en sens pas capable. Un manque de confiance en soi. Et quand on persiste à s'estimer inférieur, j'aimerais te dire que la mélancolie gagne ton cœur, le découragement gagne ton esprit et peut inciter à s'abandonner ce qu'on appelle au désespoir ou à recourir à un comportement autodestructeur. La drogue, quelle qu'elle soit, l'alcool, le suicide. Pour d'autres, le comportement autodestructeur va être dans les relations. Et c'est comme ça qu'il y a des abandons de foyer. Abandon conjugal, abandon de foyer, abandon d'enfant. Saviez-vous que c'est à cause bien souvent d'un sentiment d'infériorité que des personnes blessent, tuent et deviennent des criminels? Mais quelle est l'origine d'un tel comportement, pasteur Laurent? La cause fondamentale? Un manque d'amour. Un manque d'amour, une carence affective. Une personne qui n'a pas reçu d'amour véritable est incapable d'aimer les autres. Et pire, elle est incapable de s'aimer elle-même. Alors comment pouvons-nous être libérés de ces sentiments d'infériorité et de la déception de ne pas être à la hauteur? Eh bien, quand nous reconnaissons et que nous acceptons que l'être le plus grand qui existe dans ce monde, Dieu notre Père céleste, nous a vraiment aimés. Même si tout le monde nous abandonne, Dieu ne le fait pas. Si les autres nous accusent et nous traitent avec mépris, Dieu est notre défenseur. Si les autres ne nous font pas confiance, Dieu a confiance en nous. Si nous nous considérons comme de la poussière, comme moins que rien, Dieu nous considère comme précieux, avec une grande valeur. Je vais inviter les musiciens à revenir sur l'estrade, à me rejoindre. J'ai été vraiment touché et percuté par le témoignage d'un de nos frères lors du dernier service de baptême ici dans cette église. Certains l'ont peut-être entendu, d'autres ne l'ont pas entendu. Je lui ai demandé l'autorisation, puisqu'il l'a dit publiquement, de le redire. Il m'a dit « Vas-y, pasteur ». Il s'appelle Christophe. Et il nous a raconté, et je vais reprendre ces termes, quelques passages de sa vie qui l'ont marqué. Il dit qu'il avait environ 6 ans quand il a pris conscience que son père buvait. Et qu'il boive n'était pas le plus grave, il dit. Par contre, ce qu'il était, c'est qu'il battait violemment ma mère. Un soir, alors que nous étions tranquilles à la maison, maman, mon frère et moi, mon père arriva saoul. Et la discussion entre les parents devenait de plus en plus intense et le ton de leur voix de plus en plus fort. Énervé, son père va partir quelques instants pour revenir armé de son fusil de chasse. Et il va pointer de son arme sa mère. Christophe dit, bien sûr, j'étais pétrifié de peur. À l'instant où son père appuya sur la gâchette, il a eu la chance de pouvoir écarter le canon du fusil au moment où le coup va partir. Heureusement, la balle va terminer sa course dans le meuble de la salle à manger. Son père était fou de rage de voir que son fils, son jeune fils s'opposait à lui, tandis que sa mère va prendre la fuite. Et petit, il ne pouvait que supplier son père de changer de comportement, mais sans succès. Voyez comment des hommes peuvent être quand ils ont tourné le dos à Dieu, quand ils ont un comportement autodestructeur. Mon frère et moi avons pris la fuite à notre tour et c'était la nuit. Nous sommes partis à travers les bois chez nos grands-parents qui habitaient à quelques kilomètres de chez nous. Mon petit frère marchait pieds nus et moi en chaussettes et nous n'avions pas de nouvelles de notre mère et nous étions inquiets, l'inquiétude. Ce n'est que quelques jours plus tard que nous avons appris qu'elle avait passé la nuit dans la niche de notre chien. Ma mère n'a jamais quitté mon père par peur de mourir. C'est pas moi qui le dis là, c'est ces mots. Maman a été délivrée de cette vie atroce quand mon père fut incarcéré pour avoir tiré à nouveau sur elle en l'atteignant au crâne d'une gerbe de plomb. À la suite de ça, je n'ai plus de contact avec mon père et en quelque sorte, nous étions enfin délivrés, hormis mon frère qui l'aimait beaucoup. Oui, les enfants veulent aimer leur père, même si le père n'est pas un bon père. Nous sommes faits pour aimer et être aimés. Ma mère est tombée malade suite à toute cette violence et nous étions livrés à nous-mêmes. Mon frère a mal vécu cette histoire. Il faisait de nombreuses bêtises et ça l'a conduit à la prison. J'étais seul, je culpabilisais, conscience coupable. Des enfants, jeunes adolescents, peut te faire croire que tout ça c'est ta faute. Je culpabilisais de ne pas avoir réussi à guider mon frère. Mon frère est resté 18 ans en prison. Il a réussi à tenir toutes ces années grâce à un aumônier qu'il voyait régulièrement à la maison d'arrêt et il priait tout de leur Seigneur. De mon côté, je croyais en Dieu, mais je ne lui ai jamais demandé d'aide. Alors que j'étais plus âgé, je me suis rendu à l'église de Mantes, ici. Allô, ici, il est venu ici. On prie pour que d'autres personnes viennent ici et découvrent le message libérateur. On lit la suite. Je me suis rendu à l'église de Mantes pour amener un ami. Ah, c'était même pas pour lui au départ. Pour amener un ami d'enfance qui avait un cancer. Carlos, mon ami de toujours, qui est mort après 3 ans de combat. Cette nouvelle épreuve me fit basculer dans la dépression. Alors, après toutes ces difficultés, j'aurais pu penser que Dieu le Père et son fils Jésus n'existaient pas. Mais ma belle-sœur, qui est chrétienne, me proposa de changer d'environnement et de passer quelque temps à Bordeaux. Et un dimanche matin, nous allions à l'église. Mes frères et sœurs, osons inviter cette année des gens à venir à l'église. Vous ne pouvez pas savoir ce que Dieu est capable de faire. Il y a plein de gens comme Christophe, là, autour de nous, plein, plein. Si on ne les amène pas au contact de l'évangile par votre témoignage, ou parfois en les amenant ici au contact de la parole de Dieu, dans la présence de Dieu, qui va leur parler? Comment vont-ils changer? Osons cette année faire comme cette belle-sœur. Un dimanche matin, nous allions à l'église à Bordeaux et ce jour-là, le pasteur appela les personnes qui avaient des difficultés à venir près de la scène, à venir sur le devant, comme nous savons le faire. Et je me présentais sans savoir trop ce qui allait se passer. Un vieil homme que je ne connaissais pas pria pour moi. À ce moment-là, j'étais dans un état second. Une impression d'endormissement, de légèreté, une sensation bizarre. Il le dit avec ses mots, hein, comme on le vit les premières fois quand on venait de pénétrer mon âme et mon corps. Le Seigneur venait de me montrer son existence. Vous savez, c'est comme si tu es en prison, tu es enfermé, il y a une lumière qui vient, qui commence à éclairer ton âme. Il m'a montré sa grandeur en me gardant en vie, en guérissant des malades proches de moi. Depuis quelque temps, j'ai vendu ma maison, je ne peux plus payer le crédit, mais l'amour de mon papa céleste m'a fait prendre conscience qu'il n'y a pas plus précieux que la santé et la vie. Alléluia! Oui, on peut applaudir. C'est un miracle, un miracle. Je viens de vous partager un miracle dans un cœur. Un miracle contemporain, un miracle actuel, un miracle de fin 2017, mes amis. Un miracle. C'est ça l'amour de notre Père, un amour qui a vaincu la mort, le monde, nos craintes, nos peurs, nos sentiments d'infériorité ou de frustration. Lorsque nous prions et que nous disons à voix haute, notre Père qui est aux cieux. Quand Dieu devient notre Père, des miracles se produisent dans nos vies, comme dans la vie de Christophe. Alléluia. Notre Père, Dieu notre Père, veut libérer ce matin certains de ses enfants. Nous avons encore un peu de temps ce matin. Nous allons nous incliner dans la prière. Je le crois de tout mon cœur. Dieu notre Père, Dieu mon Père, Dieu ton Père, veut libérer ce matin certains de ses enfants. Certains, ils savent, vous savez que Dieu est votre Père. Vous savez que vous êtes un enfant de Dieu. Mais vous avez besoin quand même d'être libéré d'inquiétudes qui sont venues vous gagner ou vous regagner, d'une peur qui est venue ces dernières semaines et qui revient régulièrement dans ton esprit. Ce matin, certains ont besoin d'être libéré et de triompher de tout sentiment d'infériorité ou de frustration qui sont profondément enracinés dans ton cœur et qui sont encore un obstacle, une difficulté dans ta marche, dans ta relation avec toi-même et avec les autres. Et tu as besoin d'être guéri au nom de Jésus. Parce que tu vas accepter, parce que tu vas reconnaître, parce que tu vas développer une relation avec Dieu comme ton Père. D'autres ont besoin de se réconcilier avec Dieu. Parce qu'ils ne savent pas, ils ne savaient pas encore qu'ils étaient un enfant, un fils, une fille de Dieu. Et leur Père Céleste veut te réconcilier avec lui. Et il l'a fait par Jésus, il l'a fait. Dieu a fait sa part. Est-ce que toi, tu veux faire la tienne ce midi, ce matin? Et alors que tu vas te réconcilier aussi avec ton Père Céleste, comme il nous a été témoigné par Christophe, tu peux te réconcilier aussi avec ton Père Terrestre. Tu peux accorder le pardon à ce qui semble parfois même impardonnable, parce que c'est surnaturel, parce que c'est une œuvre de guérison qui a pris place dans ton cœur, dans ton esprit, dans tes sentiments, et que tu vas pouvoir libérer ce pardon. Alléluia, alléluia. Chantons. Et pendant ce chant, si des bien-aimés, si des hommes, des femmes veulent s'avancer ici sur le devant, comme un jour Christophe l'a fait dans cette église où il ne comprenait pas tout, où il ne savait pas ce qu'il attendait véritablement, mais il a eu confiance que Dieu est capable d'intervenir. Et alors qu'il s'est approché simplement, alors que tu t'approches simplement et sincèrement, Dieu est capable par son Esprit Saint, pas par le pasteur, par le Saint-Esprit. Dieu est capable de se révéler à toi. Dieu est capable d'aller guérir et te libérer de l'inquiétude et de la peur. Peut-être de la terreur pour d'autres. Dieu est capable de te libérer de ces sentiments d'infériorité ou de frustration qui sont enracinés au fond de toi. Et il est capable, c'est le grand jardinier, il est capable de déraciner cela et de te rendre vraiment libre et de marcher véritablement en nouveauté de vie comme un enfant de Dieu. Pas qu'un cas, pas un pied d'un côté, un pied de l'autre, pas un jour je vais bien, un autre jour je vais moins bien, non. Marcher chaque jour de progrès en progrès, parce que tu auras osé t'avancer auprès de Dieu, ton Père, qui t'aime, qui t'attend. Il t'attend les bras grands ouverts. Il t'attend pour te guérir, il t'attend pour te consoler. Il t'attend pour te libérer.